Déambulation.
Nous voyons tous sortir de terre ici et là des projets de parcs photovoltaïques. Les images de ces rectangles sombres, quadrillés, en tête d'articles ou sur des postes publicitaires, nous sont toujours plus familières. Prônés comme une solution enviable par ceux en mesure de nous l'imposer, face à ce qu'on appelle le changement climatique, les photovoltaïques s'installent dans nos paysages. En région PACA, les collectivités territoriales, main dans la main avec les entreprises phares de la filière solaire, planifient l'implantation de centrales industrielles. Parmi ces entreprises, souvent des multinationales, nous comptons RES, Boralex, Delta Solar, Siemens, Sonedix ou encore Engie. En raison de son exposition au soleil assez exceptionnelle, la Provence se trouve au cœur de ses ambitions solaires. Une orientation stratégique du territoire est donc pensée et définie par le Conseil régional sous la forme d'un schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET. Celui-ci prévoit, d'ici 2030, l'installation de panneaux sur 2850 hectares et, d'ici 2050, sur 12 775 hectares. 12 775 hectares. Dimanche 23 mai 2021, à la chapelle Notre-Dame de Lure, du côté de Bannon. Il est question d'énergie et de soleil. Il est question de la montagne de Lure, haute et ample, des petits villages qui l'abordent et de leurs habitants et habitantes tombant des nues face à l'étendue des projets d'implantation. Vous l'avez compris, il est aussi question de lutte.
On dépose sur le tissu le suc de la plante.
Voilà.
Mais c'est un marteau spécial, non?
Non, c'est non. Que j'ai pris des petits marteaux en me disant s'il y a des gosses avec moi.
Ah oui, oui, oui. D'accord.
Voilà. Sinon, moi, je fais avec une masse, je pense.
Avec une masse, ah oui.
Carrément.
Ah oui, pour que ça soit bien écrasé.
Voilà, il faut. Alors, normalement, voilà, il ne faudrait pas que le tissu bouge.
Ah
peut-être
ça va
que, peut-être que cette feuille, elle est un peu coriace. Comme je l'ai trouvé jolie, et donc on ne met pas ses doigts devant. Et là,
oui.
Il y a des projets qui arrivent comme ça, tout d'un coup. On est au courant au dernier moment.
C'est ça.
Il faut dire qu'on parle du massif de la montagne de Lure, qui est un peu la dernière montagne avant le, on va dire, les plaines méditerranéennes qui descendent sur la mer, quoi.
Plus de 18 zones naturelles s'apprêtent à être détruites, ou le sont déjà par des multinationales pour y implanter des centrales industrielles photovoltaïques. Des forêts entières et des dizaines d'espèces animales et végétales en péril, parfois en voie d'extinction. Bannon, 23 hectares par RES. Malfougas, 80 hectares par Sonedix. Redortier, 130 hectares par Engie. Simiane, 12 hectares par Sonedix. Reveste-Dubion, 22,5 hectares par Aloe Énergie. Cruis, 17 hectares par Boralex. Ongle, 11 hectares par Engie. Aubinox, 13 hectares par RES. Montfort, 8 hectares par RES. Simiane-la-Rotonde, 27 hectares par Sonedix. À Châteauneuf, Val-Saint-Donat, démarchage en cours par EDF Énergie Renouvelable.
Je suis là pour informer des informations, en tout cas par rapport à ce qui se passe par rapport aux informations qui sont affichées là, mais c'est vrai que j'en passe ma collègue, mais je ne suis pas aussi informée qu'elle pour pouvoir couper les informations précises.
Et toi, tu connais un peu le projet ici, tu, enfin, je veux dire, est-ce que tu... Donc, peut-être...
D'abord, on l'a imaginé, et puis après, on l'a fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est aperçu qu'il y avait des projets de photovoltaïque industriel sur la région, en particulier chez moi à Ongles, sur la forêt de Seigne, à Cruis, et puis on a un petit peu enquêté sur Internet, sur le terrain, et on s'est rendu compte que c'était énorme, quoi. On a répertorié aujourd'hui une vingtaine de projets photovoltaïques sur la montagne de Lure.
Ça se met pas dans l'air, en fait.
Ici, à Bannon, où on est aujourd'hui, il y en a deux. Rien qu'à Bannon, il y en a deux. C'est sur des terrains communaux ou des terrains privés, ça dépend. Donc on s'est aperçu de ça et on s'est dit, mais il n'y a plus de montagne de Lure, quoi.
Alors il y a trois.
Ça bouge de partout. Et les gens, ils commencent à. Ils aimeraient bien savoir un peu à quelle sauce ils vont se faire manger, quoi. Moi, je suis plutôt optimiste, mais en tout cas, on se bat contre des mastodontes, quoi, il faut le savoir. C'est...
On s'est dit, mais il n'y a plus de montagne de Lure, quoi. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de zone agricole, il n'y a plus de zone de prairie ou de pâturage. Alors déjà, il y a quelques années, l'association Amilure s'est battue pour qu'il n'y ait pas d'éoliennes sur le Cantadour. Ils ont gagné, mais en même temps, on est sûr de rien, parce que pour ce qui est des éoliennes sur la montagne Sainte-Victoire, ça avait été interdit, ça avait été gagné, et puis bah, ils les ont quand même installés. Donc des dérogations. Et ici, c'est le coût de la dérogation, c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'on a beau prouver qu'un certain nombre d'espèces... végétal, animal, sont rares ou vont disparaître ou qu'il va y avoir des inondations si la flore, les arbres n'absorbent pas l'eau à certains endroits, ce qui est très rare, mais c'est le cas à Seigne, par exemple. À Seigne, c'est une zone humide, très rare en PACA, donc à préserver absolument. C'est trop beau pour être abîmé par le CAC 40 au profit de Engie, RES, enfin toutes des multinationales qui cherchent à se reconvertir en se déguisant en vert.
L'entreprise RES est heureuse de vous présenter son projet de centrale photovoltaïque. Projet essentiel face aux grands défis du réchauffement climatique. Les progrès fulgurants réalisés par la science dans le domaine des énergies propres et renouvelables, représente un immense espoir. Car n'ayons pas peur de le dire, notre planète ne pourra pas être sauvée sans ces nouvelles technologies.
Monsieur Carpentier, c'est vraiment des sales gosses ici, je les invite pour moi, là, je les...
Mais dites donc vous, Christine, mesurez votre langage.
Excusez-moi, monsieur.
Vous travaillez dans une entreprise sérieuse, une multinationale à plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires.
Comment ça serait possible, du coup, de lutter contre ces entreprises-là?
C'est juste que... Je me demande s'il y a d'autres solutions que ces mines en Chine pour construire nos panneaux solaires.
Mais qu'est-ce que vous me sortez là? Hein? Mais vous croyez qu'on les sort d'où, nos panneaux solaires? Pour les construire, hein? Il nous faut non seulement du silicium, mais de l'indium, du calcium, de l'arsenic, du cuivre, de l'aluminium, de je ne sais quoi encore, hein? Et puis surtout, il nous faut
néodyme,
du pétrole et du gaz pour les extraire et les acheminer jusqu'ici. Hein? Les panneaux photovoltaïques, comme toutes ces technologies high-tech, auront toujours besoin de notre bonne vieille civilisation industrielle, capitaliste, mondialisée.
Eh bien, écoute, il y a deux aspects. Nous, LZA, Lure en résistance, on organise des rassemblements pédagogiques, informatifs, festifs. Là, il va y avoir de la musique, il va y avoir un petit morceau de 20 minutes de théâtre. On voudrait avoir les forces d'en faire au moins un par mois, tu vois.
Donc il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut s'informer. Et après, on peut réfléchir à des alternatives. Que les gens se sentent bien ensemble pour pouvoir avoir envie d'imaginer comment ça pourrait être, comment ils pourraient être, redevenir un peu maître de leur production d'énergie et de leur consommation. Nous, pour l'instant, on voit ça comme ça.
Et puis, il y a aussi une association qui s'appelle Amilure, qui est locale aussi, et qui, elle, se bagarre sur le plan juridique. Ce que nous, on ne fait pas. On n'a pas les forces financières.
Ils se sont bagarrés au début, je crois que c'était vers 2017, contre les éoliennes. Et eux ont choisi de se constituer en association. Donc, ils arrivent à avoir... Donc, il y a les cotisations et tout. Et ils ont de l'argent pour aller plus loin que... Parce qu'on a fait des recours gracieux auprès du tribunal, mais qui ont été retoqués, bien sûr. Donc, après, Amilure... a pu collecter suffisamment d'argent pour envoyer deux de ses projets au tribunal administratif. Donc là, ça coûte quand même 3 000 euros, il faut savoir, par projet. Nous, on en a répertorié au moins une quinzaine de projets qui ensemble rassemblent à peu près 600 hectares. Et donc, s'il fallait à chaque fois aller au tribunal administratif, c'est des dizaines de milliers d'euros qu'il nous faudrait. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et là, on en profite donc pour redémarrer une mobilisation sur un projet qui est déjà ficelé. Ce n'était pas une enquête publique, c'était une consultation. Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'hectares qui est impacté. Ici, c'est un projet qui est sur 8 hectares et demi. Mais en fait, quand on regarde bien les études, c'est plus que 8 hectares et demi. Même les instances départementales disent que ce n'est pas 8 hectares et demi, c'est 14 hectares. Et si on compte un peu les deux frichages qu'ils doivent faire contre les incendies autour de ces projets qui sont clôturés la plupart du temps, il faut doubler les surfaces.
C'est un sketch, hein, il pourrait nous faire un... On pourrait nous faire un sketch, hein. Ouais, du Raymond DeVos, ouais. Aïe, 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 aïe. Personne n'a amené une barre à mine dans son coffre.
Non.
Et non, ça pèse 2 tonnes.
Les gens sont pas...
Arnold, la zone consacrée à du photovoltaïque pour ici.
Là où il y a le jeûner.
Là où?
Il y a les jeûners.
C'est difficile de dire dans un micro où ça se trouve.
Oui.
Mais donc sur l'arrière de la chapelle, Notre-Dame des Anges, voilà, il y a une très belle vue et qui donne sur le contrat, qui est juste en dessous de la montagne de Lure. Et là, on voit des jeûners qui sont en fleurs en ce moment. Et là, il y aura à la place des jeûners, il y aura des...
Il
est prévu qu'il y ait, mais nous allons tout faire ce qu'il faut pour que ça n'ait pas lieu. Donc il souhaite installer des panneaux photovoltaïques. Et un peu sur la droite également, en descendant, là, je veux dire, donc ça sera parfaitement visible depuis la chapelle Notre-Dame des Anges. Et ça serait... Oh, ça va, hein. Je vous présente Christiane Amil et Kik. Voilà.
Il y a combien d'hectares ici?
Ici, en photovoltaïque, il y a autour de 7 hectares.
Et... Y compris le...
Non, en plus, voilà. Il y a le périmètre, parce qu'il défriche toujours autour, ça fait à peu près 11.
Thank you.
Mais un des volets que les gens, principalement, qui interpellent principalement les gens, c'est aussi le fait que c'est des projets qui avancent masqués. Il y a souvent des clauses de confidentialité dans ces projets, les accords qui sont faits entre les communes et l'entreprise et la multinationale de l'énergie, ou bien avec les privés, si c'est des terrains privés. Il y a des clauses confidentielles qui sont signées. Et elles apparaissent, ces clauses, que dans le dossier d'enquête publique, qui, lui, apparaît officiellement sur les sites de la préfecture 15 jours avant le début de l'enquête.
Une consultation, du coup.
Ben, une consultation, c'est beaucoup moins contraignant qu'une enquête. Les contraintes sur l'environnement, sur les zones urbaines, sur les permis de construire sont beaucoup moins, ils obtiennent beaucoup plus facilement des dérogations. Soit parce que c'est des questions de surface, ou alors ils estiment que c'est des terres qui sont classées dans la classification des terres agricoles ou non agricoles, ou de couverts forestiers, de landes, de bois. Il y a toute une déclinaison. Et par exemple, dans les déclarations cadastrales et tout, c'est des terrains qui sont plus ou moins cotés. Par exemple, si tu loues un hectare de terre labourable, ou si tu loues un hectare de lande à pâturer pour tes brebis, ou un hectare de forêt, tu ne vas pas payer du tout le même prix. Donc des landes comme ça, comme celles qu'on a devant nous, en fait, c'est un super pâturage à moutons. Mais pour eux, ça a peu de valeur. Donc il n'y a pas de raison évidente pour donner une compensation. Et par exemple, il y a un projet sur Rodortier là, de 5 hectares sur une terre communale. La société, c'est NG Green, elle propose à la commune de geler 5 autres hectares de forêt communale, de les mettre en protection. Moyennant, la société, elle va donner 400 euros par hectare à la commune. Ça veut dire, c'est à peu près 6 hectares. Donc la commune, elle va toucher 2500 euros par an. Par contre, les terrains où ils vont faire le projet, effectivement, là, c'est un peu plus cher, c'est 2500 euros. Mais par rapport à l'argent qui va être produit par cette électricité, c'est des cacahuètes, quoi. C'est même pas 10%, c'est entre 5 et 10%. Ça veut dire que c'est vraiment une économie de pillage complètement néocoloniale et pas plus, quoi.
Vous pouvez être fier de votre région qui va participer à l'énorme effort gouvernemental pour réussir la transition énergétique. De plus, beaucoup d'élus ici même se battent pour l'installation d'énergie propre. Soutenons-les !
Donc déjà dans les enquêtes, il y a des choses qui sont contestables et qui sont contestées. Mais c'est rare que le commissaire enquêteur il demande par exemple une... comme il l'a fait récemment sur un autre projet qui est sur Rodortier, c'est une commune qui est à vol d'oiseau, peut-être à 8 km d'ici. C'était pour la révision d'une carte communale. Et le commissaire enquêteur, qui est une femme, d'ailleurs c'est une commissaire, elle a estimé que les retours qu'elle a eus du public, parce que les gens peuvent contribuer et dire ce qu'ils pensent de ces projets, avant la clôture de cette enquête, qui n'est pas une enquête, en fait c'est une consultation qui dure un mois, il y avait trop de choses contradictoires, donc elle a demandé une prolongation de cette enquête. Donc là, c'est une enquête qui court encore jusqu'au 25 mai.
C'est elle, admettons, qui après va juger des résultats de cette enquête et qui a un pouvoir.
Elle a un pouvoir parce qu'elle va donner un avis. Alors elle peut donner un accord. Moi, a priori, je ne vois pas l'inconvénient que ça se fasse pour telle et telle raison. Ou alors elle peut donner un accord avec réserve. Ça veut dire avec réserve de revoir tel point, d'approfondir telle question qui n'est pas assez approfondie dans l'enquête. Elle peut refuser, dire non, ce projet, il est pas, on ne peut pas le soutenir pour telle et telle raison. Mais après, c'est le préfet qui décide. Et le préfet, c'est le représentant de l'État. Donc lui, l'État, il a en projet, dans les schémas régionaux, il a en projet de développer le solaire à fond la caisse, parce qu'on a beaucoup de soleil en Provence, c'est connu. Donc les objectifs sont très très ambitieux. Il y a des objectifs à 2030 et des objectifs à 2050.
Moi, il se trouve que je suis passé devant la mairie un jour et je vois conseil municipal, signature d'un bail emphytéotique au profit de la société RES. Je me dis, tiens, je vais aller voir ce conseil municipal, j'assiste à ça. Et finalement, les gens votent, alors que personne n'était au courant, à part quelques individus, de ce projet. En fait, c'est un peu le monde dans lequel on est. Tout le temps, il se passe des choses, il y a des projets, mais la population n'est jamais au courant, elle n'est jamais consultée, elle n'est jamais intéressée à s'impliquer, à participer à la réflexion. Et finalement, on est à côté, voilà, on est en dehors des affaires publiques. La question, c'est comment on s'y prend pour empêcher que ça arrive. Voilà, bon. Alors comment ça peut se mettre en place? Eh bien, je pense que ça se met en place parce que dans chaque commune, eh bien, il y a des gens qui vont être attentifs à ce qui se passe, il va y avoir de l'information. Et peut-être, in fine, il va falloir se prononcer. Parce que là, actuellement, sur la commune de Bannon, il n'est pas encore prévu qu'il y ait une consultation. Je n'ai pas entendu qu'aucunement on posait la question. Voilà, on ne pose pas la question, on n'informe pas. Alors, soit les habitants de tous les territoires s'approprient cette question. C'est un biais. Après, il y en a d'autres qui vont dire, voilà, on peut faire autrement, on peut faire des ZAD, on peut s'accrocher à des arbres, parce qu'il y a une multiplicité de raisons de s'opposer. Mais je crois que ça va être très important qu'on soit présent et tout le temps d'être prêt à mobiliser et à demander d'être consulté et de pouvoir voter sur ce type de projet.
Cette belle montagne regorge d'espaces sauvages bien orientés et peu habités. Grâce à vous, l'énergie produite ici même alimentera les villes et les régions pluvieuses qui n'ont pas votre chance d'avoir ce climat si favorable. Comment osez-vous être aussi vulgaire?
Vulgaire, non. Avez-vous des remarques à nous faire, madame?
Comment osez-vous porter ce mensonge aussi haut et fort sur nos terres? Allez-vous-en! Écoutez. Écoutez les oiseaux. Écoutez les abeilles. Vous sentez? Sentez-vous la sarriette et le thym? Comment pouvons-nous effacer cette mémoire de nos âmes? Comment osez-vous vouloir louer ces terres? Vous entendez? Mes hanches glissent sur la roche. Mes tibias sont de thym et de bois de santal. Vous entendez? Chaque brindille est importante. Chaque papillon est magique. Chaque fleur de cette montagne vous ressemble. Écoutez, il n'y aura peut-être bientôt plus d'oiseaux, ni d'eau pour abreuver nos larmes. Suivez-moi.
C'est tout la fusillade au ciel du Nord flou. Des barricades aux yeux flambés.
Le godet que tu as pris, il était à nous. Hein.
Oui.
D'accord. Non, je veux dire que tu l'as pas rendu.
Pour l'instant, tous les projets qui sont concernés, c'est ou de la forêt communale ou de la forêt privée. Il y a peu de terrains agricoles, mais encore après, il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un terrain agricole. Parce que dans leur langage, un terrain agricole, c'est un terrain qui est labourable, en gros. Mais par contre, une lande qui est pâturée, c'est pas un terrain agricole, c'est une lande, c'est une garrigue. Après, ça peut être une zone naturelle. Mais si elle n'est pas strictement protégée, il peut y avoir des dérogations qui sont accordées, moyennant des compensations. Et les compensations, souvent, comment tu veux calculer ce que vaut un hectare de forêt, les services qu'elle nous rend, comme ils disent, les services écosystémiques. Ils ont un langage aussi qui est assez rébarbatif et où tu peux mettre ce que tu veux, quoi. C'est vraiment de la technocratie pure et dure. Pour moi, le seul puits de carbone que je connais, c'est quand même la forêt, les sous-bois, peut-être les prairies, les zones vertes, quoi.
Alors, en 1930, c'est-à-dire il y a maintenant 91 ans, Jean Giono, le romancier manosquin, a écrit un texte pour faire l'avant-propos de la réédition de ses trois premiers romans qui l'ont rendu célèbre, Regain, Colline et Un de Beaumugne, groupés en un seul volume. Et ce texte s'appelait « Présentation de Pan ». Et dans cette présentation de Pan, Jean Giono raconte comment il a rencontré l'Ure, qui est la montagne qui est juste devant vous. Quand on regarde sur la carte routière le pays qui ceinture la Durance, on voit vers le haut de l'image une grande place morte.
Une résille d'artères et de veines charrie le vent dans la partie basse. La terre verte s'abreuve au torrent, de grasses villes s'arrondissent, les voies sont larges, la poussière du blé roule comme une nuée, mais d'un coup, tout s'anémie et s'amenuise. La route qu'on suivait du doigt se perd, le sentier même s'efface. Une dartre livide s'élargit qui va de Sisteron à Sceaux. Tout est mort, tout est blanc de la pâleur des terres inconnues. C'est l'Ure.
Plus de chemin. Les traces humaines vont peureusement le tour de la montagne. Quelques villages heureux marquent les étapes du voyageur à pied.
La route se glisse dans l'entrebâillement d'une porte de roche. Elle tourne, elle danse contre le flanc sauvage et poilu du mont. Elle s'esquive dans un val. Elle se cache sous les collines. Elle fuit enfin vers l'Aragne, laissant derrière elle, après son prudent détour, la terrible échine. Ce qu'elle encercle ainsi, c'est la montagne libre et neuve qui vient à peine d'émerger du déluge. Là, le vent est comme un ruisseau et coule à travers votre tête. Tout fuit de ce que constituait le monde habituel. Tout coule comme un sable. Plus rien de ce qui a été inventé ne compte. Nous voilà clarifiés et lavés. Il y a eu personne avant nous. On n'a pas découvert la brouette. On n'a pas découvert le levier. Votre pauvre soulier est mangé par les pierres. Le vent arrache votre foulard. Une force froide durcit l'air transparent. Et soudain, vous voilà nu en face de la terre.
Thank you.
que demain, demain partout, les éoliennes puissent se hisser comme des drapeaux annonçant la victoire. Partout, les panneaux solaires doivent se multiplier pour qu'enfin la lumière terrasse l'obscurité qui s'est abattue sur notre planète.
Parce que moi, tu vois, par exemple, je ne suis pas très au clair sur cette énergie, comment après elle est utilisée, comment elle est récupérée en gros par, dans le réseau. Et... comment elle est desservie, en fait, c'est un peu à qui elle va servir et à quoi.
Ben c'est ça un peu l'ambiguïté, c'est que si tu as une centrale solaire près de chez toi, qui est importante, eh ben elle va t'amener le courant en premier. Ça veut dire que tu as une partie qui va être consommée localement. Toi, après, tu le sépares, tu payes à Engie ta facture. Et après, le surplus, par exemple, tu vas utiliser la nuit, la centrale elle va pas produire la nuit. Donc, en fait, dans la journée, souvent, ils produisent beaucoup plus que ce qui peut être consommé localement. Donc, ça part sur les lignes haute tension ou très haute tension. Ça veut dire que là, c'est exporté. Ça peut très bien... Après, il se mélange le courant. Donc, après, il part en Italie, il part sur Marseille, il part à Cadarache. Ou plus proche, ça va être Cadarache. Parce que avec les chantiers qu'ils font en ce moment là-bas, avec ITER, où ils essaient de faire un soleil artificiel, là, encore un projet complètement démagogique, c'est évident qu'il leur faut une énergie de fou. Alors c'est pareil, sur Manosque, c'est tout près d'ici, hein, c'est quand même à 25 km d'ici, dans notre département, on va dire 30 km. Il y a un projet pour produire de l'hydrogène, en faisant de l'hydrolyse de l'eau. Je ne sais pas s'il y en a qui t'en ont parlé tout à l'heure.
Non, mais j'ai vu les panneaux, voilà. Et je veux bien que tu m'en
parles. Bah, voilà, en fait ce projet, maintenant tout le monde dit oui, la nouvelle énergie verte, c'est l'hydrogène. Mais sauf que pour installer leur usine... d'hydrolyse de l'eau pour sortir l'hydrogène, il faut qu'ils trouvent 1500 hectares de panneaux solaires autour de Manosque. Donc ça veut dire toutes les communes autour de Manosque, même le parc du Luberon, ils vont être impactés par des... Ils vont être sollicités pour trouver des hectares ou mettre des panneaux solaires. Alors tu vois un peu le boulot qu'on a devant nous là. Et la lutte, elle est complètement inégale parce que... Donc voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, que j'ai pas assez insisté, c'est que les gens, ils sont mis au courant au dernier moment. Il n'y a aucune consultation, il n'y a aucun débat public. Il n'y a aucune commune qui ose organiser les débats publics parce qu'elle sait que ça va être très conflictuel. Donc c'est aussi surtout là-dessus que les gens se sont réveillés. Et la plupart du temps, ce n'est pas des gens qui militent dans des groupes. C'est surtout des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui veulent comprendre, qui disent c'est quoi qui nous arrive. On n'est pas au courant maintenant. Il y a des clauses de confidentialité, c'est normal que vous ne soyez pas au courant.
Là, il est question d'une transformation durable de notre environnement.
Oui, c'est clair. Ben, l'impact sur la forêt il va être énorme. Il est déjà énorme. Et ils nous disent, mais en fait, dans 30 ans, on va les enlever. Et après, le milieu, il va redevenir naturel. Sauf qu'une forêt méditerranéenne comme celle-ci, où il y a beaucoup du chêne, et puis aussi quand même beaucoup de pins sylvestres, principalement, là où ce n'est pas planté en cèdre ou en pin noir, c'est des milieux très fragiles. Et une fois qu'ils sont coupés à blanc, il leur faut un siècle avant de vraiment reconstituer un écosystème comme celui qu'on a en ce moment. Il faut un siècle. Donc tout ça, ils le calculent, ils calculent des compensations en fonction de ce qu'ils pensent qu'un hectare de forêt, ça vaut. Mais moi, je pense que tu ne peux pas calculer ce que ça vaut, un hectare le service que ça nous rend, un hectare de forêt. Mais ça ne peut pas se chiffrer en argent, c'est pas possible. Nous, on n'est pas contre le solaire absolument. Qu'ils en mettent d'abord sur les toitures, dans les villes, sur les centres commerciaux et tout ça, après on verra. Après, au niveau d'une petite commune, on peut très bien avoir des petits projets et communaliser un peu de la production, apprendre à économiser aussi, à consommer autrement son énergie. Et après, pour les grandes villes, moi j'ai pas de solution pour les grandes villes, franchement. J'ai pas de solution. Mais il faut déjà qu'on apprenne à économiser l'énergie, à l'utiliser autrement, et puis à essayer d'en produire un peu, dans la mesure de nos moyens. Mais cet après-midi, il y a un gars là qui bosse dans une association qui s'appelle Énergie Partagée, je crois. Lui, il essaie de montrer aux gens qu'au niveau d'une petite commune, c'est possible de mutualiser du travail et de faire de la production. Parce que ce qui est aussi grave, c'est qu'en fait, La région, elle est pillée et c'est une énergie qui est consommée en partie sur place, mais dont tout le gros surplus part ailleurs. Et donc tant que les gens ne maîtrisent pas la production, un minimum de production, ils seront dépendants voilà, du nucléaire, du charbon, du pétrole.
Vous venez d'écouter L'Ure en résistance. C'est la fin de la déambulation. N'hésitez pas à réécouter ou à partager cet épisode en le téléchargeant sur le site de la radio rdwa.fr. Passez une bonne fin d'après-midi.